à tous et à toutes. Dieu ne souhaite pas la solitude. Tout au long de la lecture de la parole, il est fait mention de duo, et voire plus, mais il est rarement fait question de la solitude, si ce n'est celle de Jésus avant la crucifixion. J'ai fait une petite recherche, enfin c'est pas moi, hein, c'est le moteur de recherche. Le chiffre 2 est écrit 819 fois dans la parole. La première fois où il est question de l'homme, c'est dans Genèse 2, verset 25. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'avaient point honte. Une des premières fois où Dieu parle de duo humain dans sa parole se trouve aussi dans Apocalypse 11, 3. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser revêtus de sacs pendant 1260 jours. Il y a encore de nombreuses fois où la parole emploie le chiffre 2. Mais les duos dont je voudrais vous parler aujourd'hui se trouvent dans les évangiles. Matthieu 4, 18. Ce sont les duos appelés ou formés. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André, son frère qui jetait un filet dans la mer car ils étaient pêcheurs. En 4:21, de là, étant allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparaient leurs filets. Il les appela. Il y a d'autres duos formés, je vous laisse les chercher. Mais il y a des duos aussi d'intercession, de prière ou de rencontre. En Matthieu 9, 27, on peut lire « Étant parti de là, Jésus fut suivi par deux aveugles qui criaient « Aie pitié de nous, fils de David !» En Matthieu 18, 16, « Mais s'ils ne t'écoutent pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle. » Un autre, Matthieu 18, 20, bien connu, qui a été cité tout à l'heure dans une prière, « Car là où deux ou trois sont assemblés, en mon nom, je suis au milieu d'eux. »
Désolé.
C'est pas grave. On va attendre que Jean-Paul arrive. Je couperai le blanc au montage. Il y a aussi la rencontre de Jésus avec Moïse et Élie. On peut lire en Luc 9:30. Et voici, deux hommes s'entretenaient avec lui. C'était Moïse et Élie. Le chiffre 2 est aussi utilisé en tant qu'avertissement. Luc 16:13. Nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Mammon, pardon. Et Jean-Baptiste, lui aussi, il a envoyé deux hommes pour interroger Jésus. Toujours en Luc, on peut lire en Luc 7, 19. Il en appela deux et les envoya vers Jésus pour lui dire « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous attendre encore ?» Il y a aussi les deux anges du tombeau. Jean 20, verset 12. Et elle vit deux anges vêtus de blanc assis à la place où ils étaient couchés, où il était couché, le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Où avait été couché, pardon, le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Je pourrais encore vous citer le verset des disciples d'Emmaüs que vous connaissez. Il y a aussi le verset des deux anges qui apparurent quand Jésus monta au ciel pour l'ascension. Il y a l'idiot aussi cité en Marc 6, 7. Alors il appela les douze et il commença en les envoyer deux à deux en leur donnant le pouvoir sur des esprits impurs. Mais pourquoi donc Dieu désire que nous marchions à deux, voire à plus? Quelques pistes. La première que je vais vous citer se trouve dans Ecclésiaste 4, versets 9 à 12. Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un second pour le relever. De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aurait-il chaud? Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Et la corde à trois fils ne se rompt pas facilement. Vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Dieu ne veut pas que nous soyons seuls. Tous ces versets nous le montrent. Et pourtant, que de différence entre deux individus, que de points de divergence. Il y a 10 points d'entente, mais que de points de divergence. Chaque être humain est unique, et chacun de nous peut dire, comme le psalmiste dans le psaume 139, dans les versets 13 à 16, « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. » Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'étais fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Dès la création, Dieu n'a pas voulu que l'homme soit seul. En Genèse 2, verset 18, nous lisons « L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Et voilà, le premier duo humain constitué avec toutes les différences que l'on connaît entre un homme et une femme. Plus tard, nous lisons dans le livre d'Amos, en 3.3, « Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus ? Ce qui est vrai pour deux êtres humains l'est aussi pour deux églises, ou un ensemble d'églises de même dénomination ou non. Les humains sont différents les uns des autres. Je pense qu'on en a tous conscience. Les églises sont différentes les unes des autres. Or, Dieu veut construire sa maison avec toutes ses pierres diverses et complémentaires. Tout comme un être humain qui reste seul, même s'il a confié sa vie à Dieu, ne peut grandir, se fortifier ou s'épanouir. Une église seule dans son village, faisant peut-être partie d'une dénomination, mais ne participant pas à des actions communes, ne peut, en ce temps, survivre. Aucune pierre humaine, si elle est seule ayant donné sa vie à Dieu, ne peut grandir et s'épanouir dans la foi. Aucune église seule ne peut aujourd'hui bâtir la maison de Dieu à elle seule. Plus encore, des milliers de pierres humaines, si elles sont totalement identiques, ne pourront construire la maison de Dieu. Je crois fermement que des centaines d'églises totalement identiques, elles aussi ne peuvent construire l'église de Dieu. Tant pour les hommes, pour bâtir une église vivante, que pour les églises, il faut toutes sortes de pierres, humaines ou d'églises, avec toutes leurs différences, et chacune doit être à sa place. Pour les humains, comme pour les églises, si nous sommes séparés de toute communion fraternelle, nous ne pourrons jamais former la maison de Dieu. Une pierre. Les pierres peuvent servir à de multiples usages. Elles peuvent être broyées, taillées, polies, affûtées, creusées. On peut en faire des couteaux, des armes, des vases, des pièces d'ornement. Elles peuvent être utiles ou être des obstacles. Dieu veut construire sa maison avec toutes ses pierres diverses et complémentaires. Les pierres peuvent être précieuses et d'une grande valeur, tout comme elles peuvent être vulgaires. Elles peuvent être très dures ou friables en fonction de leur nature et des éléments qui les composent. Mais toutes sont des pierres, bien que totalement différentes les unes des autres. La maison de Dieu se forme avec des pierres qui sont réunies, rassemblées, même si elles sont différentes. Il en est de même avec les églises de toutes dénominations, qu'elles soient ménonites, baptistes, pentecôtistes, darbistes, catholiques et autres. Dans notre association d'églises ménonites, l'église de Châtenois ne fonctionne pas comme celle de Darnay. Tout comme Darnay ne fonctionne pas comme Baccarat, ou tout comme Belfort ne fonctionne pas comme Dell, et je pourrais continuer mes citations. Les églises ménonites sont toutes différentes, et pourtant elles continuent à avancer ensemble depuis des décennies, s'aidant mutuellement. À la Vosges, nous sommes bien placés pour en témoigner. Être unis est indispensable pour continuer à avancer. Sans la EEML il y a 35 ans, puis la EMF maintenant, nous, Église de la Vosges, ne serions plus là, n'en doutons pas un instant. Chaque être humain est différent, chaque Église est différente. Nous sommes des pierres toutes différentes, et pourtant, le Seigneur, qui est le constructeur de cet édifice, travaille avec patience à les ajuster. L'aspérité de tel frère, de telle sœur, ou de telle église vous dérange-t-elle? Sommes-nous incommodés par la dureté de tel pasteur ou de tel frère? Ressentons-nous de la fragilité dans cette personne ou dans cette église? Et alors, ne nous séparons pas d'eux, ne les évitons pas, ne les dénigrons pas pour autant. Dieu ne nous demande pas de nous unir pour ne former qu'une seule communauté. Laissons le maître, faire son travail avec eux, comme en nous. Faisons-lui confiance. Il travaille à perfectionner chacun, chacune, chaque église, pour que chacun, chacune, chaque église soit à sa place. Chers frères et sœurs, dans une prédication faite à Toul, Pascal Keller disait « Ce que Jésus nous demande, c'est d'aimer ceux qui sont autour de nous, de sortir des pièges du jugement, d'être et de rester ouvert à chacun, quel que soit son statut social, sa nationalité, son sexe, l'épaisseur de son portefeuille, la couleur de sa peau ou la langue qu'il parle. Ce que Jésus nous demande à nous qui sommes ses disciples, c'est de nous aimer les uns les autres comme il nous a aimés, de vivre la fraternité telle qu'il nous l'a enseignée et telle qu'il nous en a donné l'exemple. Être une communauté de pardon, de grâce, d'apprentissage à une vraie communion, à un authentique vivre ensemble. Le plus grand témoignage que peut apporter l'Église, c'est d'être une communauté d'amour, d'accueil, de grâce, de pardon, de partage, sous différentes formes. C'était ce qui s'est passé du temps de la première communauté. C'est toujours actuel aujourd'hui. Pas une communauté de gens parfaits, mais une communauté d'apprentissage à l'amour, une communauté de grâce et de pardon, et donc aussi de repentance. Pas une communauté sans problème, mais une communauté où on essaie de régler les problèmes de façon ouverte et vraie. Une communauté aussi d'entraide et de partage, capable de se laisser émouvoir de la détresse alentour et au lointain, et d'agir, comme Jésus était ému. Les entrailles remuées par la détresse d'une mère qui enterre son fils unique, ou celle d'un malade qui appelle au secours, ou devant la tombe de son ami Lazare, une communauté d'entraide est capable aussi de créer des œuvres sociales et ou d'encourager les œuvres existantes. Quel est le but de notre ennemi à tous, le but de l'ennemi de Dieu? Aujourd'hui comme hier, l'ennemi de Dieu, notre ennemi, celui qui veut détruire la maison de Dieu, cherche par tous les moyens à arracher les pierres de l'édifice, à les disperser en les éloignant les unes des autres. Il ne faut pas accepter cette situation de pierre isolée, que ce soit en tant qu'être humain ou en tant qu'Église. Ne nous complaisons pas dans l'éloignement des autres. Il y a des dictons que j'ai entendus et que vous devez connaître. Chacun chez soi et les moutons seront bien gardés. Mieux vaut ne pas trop se fréquenter pour que les rapports restent cordiaux. Ce type de réflexion n'est pas dans le plan de Dieu. Si nous voulons être des pierres de l'édifice, nous devons, autant que possible se peut, rester dans une communion vivante et édifiante avec d'autres pierres humaines, avec d'autres églises. Trouver une communauté où nous serons en bénédiction aux autres et bénis par les autres, tout comme être dans un groupe d'églises, comme nous le sommes ici à Darnay et vous à Châtenois, faire partie de la MMF, et participer à ce que nous appellerons le projet Lorraine, est capital pour notre survie. Il y a quelques années, nous avions participé, on était quelques-uns ici, à une journée à Ligny. Et l'orateur du jour avait dit en parlant des églises, mourir seul ou continuer à avancer ensemble. C'était à peu près cela. Aux copines Lorraine, nous avons décidé de faire des duos pour venir vous parler du projet qui nous tient à cœur. Je ne pense pas que c'est sans raison que Christ a envoyé ses disciples deux par deux, que les apôtres ont par la suite été souvent en duo, voire plus. Des duos, comme on l'a vu tout à l'heure, tout au long de l'Écriture, Dieu s'en est servi. Et ce n'est certainement pas sans raison. Un duo que je ne vous ai pas cité, et d'autres. Parmi ces duos, on peut parler de Moïse et Aaron, Josué et Caleb, sans oublier leurs compagnons, Daniel et ses trois compagnons. Je me plais à penser qu'à eux quatre, ils ont dû se fortifier en permanence. Il y a aussi David et Jonathan, Paul et Barnabas, qui pourtant ont eu des points de divergence, mais qui ont continué, qui se sont réconciliés et continuent à avancer. D'autres encore que je voulais chercher dans les paroles. Mais je voudrais terminer dans cette liste par les duos, cette liste de duos par le plus exemplaire pour nous. Lequel ?
Dieu et Jésus.
Dieu et Jésus. En Jean 17, 21 à 23, on peut lire « Afin que tout soit un, comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous, nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » Pascal, toujours dans le même message à tout, le disait « Le Père a envoyé le Fils et à tous deux sont restés en relation permanente d'amour et de confiance. » Cette relation d'amour a été l'axe central de l'existence terrestre de Jésus. Dans les moments difficiles, comme dans les bons moments, dans l'adversité, devant l'incompréhension, voire l'abandon de certains disciples, Jésus nous apparaît remarquablement stable. L'évangile de Jean insiste à sa manière sur cette relation, par exemple, en employant beaucoup plus souvent le mot « Père » pour parler de la relation de Jésus à Dieu que tous les autres évangiles. C'est aussi Jean qui souligne le plus fort l'unité du Père et du Fils et leur relation d'amour. Jésus apparaît stable, enraciné, de par sa relation avec le Père. Et quand il est au plus fort de la tempête, dans le jardin de Gethsémané, alors qu'il est tenté par un chemin qui lui éviterait la croix, c'est encore sa relation au Père qui lui permet de tenir bon. Non pas ma volonté, mais la tienne. Il doit en être de même pour nous en tant qu'individus comme en tant que communauté. Et cela est évidemment bien plus difficile que pour nous que pour Jésus. Nous sommes marqués par le péché, accessibles à la tentation, sans souvent la fermeté qui caractérisait Jésus face aux diverses tentations qu'il a éprouvées. Nous avons besoin régulièrement de nous recentrer sur le Père. La vie que nous menons nous éloigne souvent de façon imperceptible de l'essentiel. Ce n'est pas que nous succombions nécessairement au mal, non. C'est souvent que nous nous laissons simplement distraire par les mille et une choses, souvent bonnes, qui remplissent notre vie. Sans compter, évidemment, les soucis légitimes de notre vie de travailleurs, de parents, d'étudiants, d'épouses et d'époux, ou d'époux, de retraités, etc., etc. Rien de négatif là-dedans. Ce qui est en question, ce ne sont pas ces réalités, c'est plutôt nous. Il arrive que nous nous laissions distraire, parfois même emprisonnés par tous ces soucis. L'Évangile nous rappelle que la relation au Père Céleste est plus essentielle, plus fondamentale, au sens propre de ces adjectifs, que toute autre relation. La relation à Dieu n'est pas seulement prioritaire, mais elle est d'un autre ordre que toutes les autres relations. Si nous oublions cela, nous nous affaiblissons, nous perdons le contact avec la source la plus importante de notre existence et tout le reste en est affecté, notamment la confiance. Or, la confiance en Dieu est le moteur même de la foi. Avec Jean-Paul, nous sommes là aujourd'hui pour vous parler de ce projet Lorraine. chacun avec nos sensibilités, nos expériences, mais avec cette conviction qu'ensemble, nous sommes plus forts, chacun avec les dons que notre Seigneur nous a donnés. Nous avons aussi cette conviction que la survie de notre église, de nos églises de Lorraine, passe par davantage d'actions communes, davantage d'échanges entre les églises mennonites de notre région, mais aussi avec celles de l'autre côté de la ligne bleue des Vosges. Et cela, sans pour autant oublier nos frères et sœurs qui nous entourent dans d'autres églises. J'ai cette conviction que si Jésus a envoyé ses disciples deux par deux, et que si les apôtres ont par la suite continué, c'est pour s'encourager mutuellement, se fortifier, se relever quand l'un tombe. En conclusion, chères sœurs, chers frères, il n'est pas bon pour nous, tant en tant qu'individus qu'en tant qu'Église, d'être isolés. Nos églises vivent déjà pour la plupart des partages communautaires, comme nous ici à Châtenois et Darnay, mais aussi avec d'autres. Le but du projet Lorraine est de nous fortifier encore davantage les uns les autres, de partager et renforcer nos valeurs mennonites. Les valeurs mennonites, quelles sont-elles ? L'autorité de l'Écriture. L'adhésion volontaire et consentie à Jésus-Christ et à l'Église. Le baptême sur profession de foi et engagement personnel. Une organisation collégiale de l'Église. La non-violence et l'engagement pour la paix. La non-ingérence de l'État dans les affaires de l'Église. Le refus de prêter serment et de porter les armes. Ces valeurs, je les ai trouvées dans la revue Présence protestante et dans d'autres. Il y a un article qui est apparu récemment. Fortifions-nous les uns les autres dans ces valeurs entre nous, Église mennonite de Lorraine, mais aussi avec celles de toute la MMS. Soyons aussi et avant tout les témoins de ces valeurs auprès de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Pour terminer, je vous lirai deux versets en Matthieu 27, en Matthieu 28, versets 18 à 20. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen.